Donc pour clore ces deux journées de, de débat et d'échange du logiciel libre et 10 ans de logiciel libre, il nous a paru important d'essayer de faire de tracer des prospectives sur l'avenir. On avait commencé avec le numéro de Zéro Informatique, où dans l'article de Philippe Davy, il a interrogé un certain nombre d'acteurs justement sur ce qu'attendent ces acteurs par rapport aux années à venir. Donc on a réuni 4 intervenants qui vont aborder des sujets assez différents, qui vont essayer de tracer des perspectives. Donc je vais leur demander de faire des introductions relativement courtes, 5-10 minutes, pour permettre le maximum d'échanges avec la salle, parce que c'est vraiment un débat. Donc je les laisserai se présenter. On va commencer dans un premier temps par Éric Leblon de la société INL, qui va nous parler, je crois, donc en fait, de la méthode de développement du logiciel libre, et notamment, est-ce que finalement, le modèle approuvé du logiciel libre, selon le titre de 01 informatique, va devenir une norme dans le modèle de développement.
Bonjour. Donc je me présente, Éric Leblon, je suis cofondateur d'INL avec Vincent Desfontaines. INL est une société qui a été créée début 2004. Donc on est à la fois une société de services en logiciel libre et aussi un éditeur de logiciels, à savoir qu'on est éditeur du logiciel libre UEW, qui est un pare-feu authentifiant. Donc le but de mon intervention, c'est un peu de vous parler du retour que j'ai sur le développement de ce logiciel, et d'essayer de tracer à partir de ce point précis, disons, et assez pointilleux, une perspective autour du développement et en quoi le modèle du développement d'un logiciel sous libre permet d'accroître en fait est optimal en termes de développement. Alors les premiers points que je voudrais soulever sont assez simples en fait, c'est qu'on peut comparer le logiciel libre à ce qu'il y a eu de mieux dans tout ce qui était communauté scientifique au 19e ou à cette époque-là, où on a une véritable mise en commun des idées, et de cette mise en commun des idées, on a plusieurs faits qui émergent, donc ça, c'est l'émulation, le fait que les idées rebondissent, le fait que les idées ne meurent pas. On peut avoir des objets qui sont abandonnés, mais qui peuvent être repris quelques années plus tard ou quelques mois plus tard parce qu'on a effectivement un intérêt qui renaît sur le sujet. Donc on ne se retrouve pas avec quelque chose où on a de la perte. Toute idée peut être reprise, toute idée est publique et publiée. Et oui, peut-être qu'elle était trop en avance sur son temps à un moment, mais elle pourra très bien être réutilisée ensuite. Voilà, ensuite, de par cette émulation, on a aussi une ouverture à l'international et toute une interaction qui est vraiment positive. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de UEW, on a des idées qui est la qualité de service par utilisateur. C'est une idée qui est arrivée de Cuba. C'est un Cubain qui a participé à un moment donné au développement, qui a eu cette idée, qui a fait « Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas pour faire ça ?» Donc, oui, voilà. Si on n'avait pas communiqué sur le fait, sur les algorithmes, si tout était privé, si on n'avait pas de communication sur le fonctionnement interne, on n'aurait jamais pu avoir une telle participation. Donc, ces développements ouverts permettent d'avoir une... d'optimiser en fait les idées, de permettre l'émulation à l'échelle internationale, et c'est ça qui permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. D'autant plus qu'on peut réutiliser l'ensemble des briques du logiciel libre, l'ensemble des s'appuyer sur l'expérience des communautés, et ça permet d'aller très très vite. Voilà.
Écoute, merci Eric, c'est une introduction courte et synthétique. Je t'en remercie. Donc, on va passer la parole à Alexis Moussine-Pouchkine, architecte Java. Donc, en fait, 11 ans après la création de Java, Java est mis sous GPL avec un certain nombre de composants. Donc, c'est une annonce clairement majeure dans l'évolution du logiciel libre. Donc, je pense qu'on se pose un certain nombre de questions sur la stratégie, je dirais, de Sun, et puis plus globalement de l'ensemble des acteurs industriels par rapport au logiciel libre. Donc, je vous laisse la parole.
Merci. Donc, effectivement, je suis architecte chez Sun, et je fais du Java depuis que je suis rentré chez Sun, donc j'ai suivi ça d'assez près. C'est effectivement une évolution majeure que cette mise en open source et sous licence GPL de Java, l'intégralité de Java. On pourra revenir sur les détails si ça vous intéresse. Ça n'est pas pour autant le premier acte open source de Sun, qui historiquement a fourni à la communauté open source des choses aussi diverses que OpenOffice, bien sûr, qui aujourd'hui, en termes d'image de marque et d'utilisateurs finaux, quelque chose de très important. A également, il y a 18 mois, mis en open source son système d'exploitation, sous le nom d'Open Solaris, a contribué à un certain nombre d'autres briques dans les versions Apache en particulier. Donc, Sun, pourquoi faire de l'open source du libre pour une société qui a un modèle économique qui est basé certes sur le fait que c'est un constructeur informatique, mais également sur la vente de licences, sur de la logique propriétaire historiquement, et bien essentiellement on pourrait le résumer par le fait que tout le monde n'a pas eu la chance de démarrer dans le monde du libre avec cette approche dès le début. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment est-ce qu'on peut, à partir d'un historique d'utilisateurs et d'une richesse somme toute logicielle, évoluer vers du libre? C'est entre autres ce qui s'est passé pour Java. Et la valeur que l'on voit dans le libre, elle n'est pas tellement sur le fait que structurellement du code libre auquel la communauté entière pourra participer sera forcément de meilleure qualité, développé forcément plus vite. C'est plus sur la capacité à fédérer une communauté autour d'une technologie ou d'un logiciel. Et par la notion de communauté, c'est d'abord avant toute chose une communauté de développeurs et ensuite bien sûr une communauté d'utilisateurs. Et cette communauté est intéressante parce que les meilleures idées proviennent d'ailleurs. Les gens les plus intelligents ne travaillent pas pour vous, quoi que vous en disiez, même si vous vous appelez Google, les gens les plus intelligents, les bonnes idées viennent d'ailleurs. Donc il faut absolument être à l'écoute de ces bonnes idées, partager un certain nombre de ressources et quelque chose d'important également. Et puis faire vivre un développement, c'est entretenir une communauté. Et la pérennité d'un logiciel, plus il avance vers le libre, moins il est lié à bonne volonté d'investissement d'un éditeur, et plus il est lié à la pérennité de la communauté qui l'anime. Donc c'est autant de choses qui, chez Sun, nous poussent à mettre dans le libre un certain nombre de briques, ce qui est un travail assez important, notamment d'analyse du code source existant, pour savoir si on a véritablement le droit de mettre en open source des choses aussi diverses qu'un système d'exploitation, une technologie comme Java, ou une brique de bureautique comme OpenOffice. Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que l'on va continuer. On va essayer d'avoir une démarche cohérente par rapport aux différentes briques que l'on a, par rapport aux différentes communautés qui existent. Le libre est une somme de communautés open source. Notre objectif est de dialoguer et d'échanger avec un maximum de ces communautés et ne pas simplement avoir des projets Sun qui se trouvent être sous licence open source, mais véritablement d'engager cette conversation.
Merci Alexis. Je vais passer la parole donc à Christian Davio, qui est directeur de la Fondation Prometheus, fondation d'entreprise qu'il va présenter, également collaborateur de Bernard Carayon. C'est également au titre que je vous ai invité à intervenir, notamment donc suite à la publication du rapport de Bernard Carayon à Armes Égales, qui présente quelque peu le libre finalement comme un outil politique public. Et on sait bien qu'actuellement il y a un débat très important à ce sujet-là, notamment avec nos amis de logiciel propriétaire. Il y avait un débat il y a 2 jours, je crois, au Sénat. Donc finalement, est-ce que vous avez quelques réflexions sur cet enjeu fondamental du logiciel libre comme outil de politique publique ?
Un outil de souveraineté, on pourrait dire. L'idée qu'a développée Bernard Carayon dans son rapport, c'est de dire que l'Europe retrouve sa souveraineté en matière de technologie de l'information. La seule solution, c'est de miser sur le logiciel libre, et de miser sur le logiciel libre, non seulement sur ses aspects purement logiciels, mais également sur la méthode de travail collaboratif. Et dans ce rapport, Bernard Carayon propose qu'on prenne toute la chaîne du logiciel, en partant du processeur et en allant jusqu'au plus petit applicatif, et qu'on applique les méthodes du libre. L'annonce ou la découverte ou la redécouverte de la faille du processeur Intel va d'ailleurs dans ce sens-là aussi. Donc c'est cette idée d'utiliser à la fois le libre en tant qu'outil informatique, mais aussi la méthode de travail collaboratif pour partager des découvertes ou la recherche scientifique, puisque vous savez que vous savez mieux que moi sans doute d'ailleurs, qu'en ce qui concerne les processeurs notamment, on est aux limites des lois de la physique, donc maintenant il faut que d'autres sciences, que des sciences apprennent à travailler ensemble, qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir franchir ces limites qui sont imposées pour le moment par la matière. J'aimerais toutefois être le vilain petit canard de cette table ronde, peut-être, et être un petit peu moins optimiste que vous, ou au moins poser une interrogation. Regardant un peu le secteur du libre évoluer, ou ayant lu, comme tout le monde, et suivi un peu les annonces de ces temps-ci, connaissant la capacité de nos amis d'outre-Atlantique de faire du business avec rien, éventuellement d'ailleurs, connaissant leur force de frappe financière, Vous savez que Noël, par exemple, pour ne parler que de Novell, dispose de 1,3 milliard de dollars en cash et à zéro dette. Vous devez connaître la capitalisation de MySQL, grand acteur européen. Si on compare les deux, on voit qu'il y a un léger... C'est même pas David à Goliath, là. On ne peut même pas être dans cet ordre de grandeur-là. Premier élément. Deuxième élément, l'annonce récente de l'alliance Microsoft-Novell, avec IBM en toile de fond, HP et les autres. Même à la limite, l'ouverture de la JVM, tout ça me laisse un peu perplexe. Je me demande si... Et les entretiens qu'on peut avoir avec Bernard Carillon, avec quelques éditeurs de logiciels français qui font du propriétaire en pillant le libre et qui vont aller trouver l'argent auprès des Américains pour faire fortune là-bas. C'est un discours qu'on nous a tenu d'ailleurs hier soir, aussi crûment que ça, et sans état d'âme, sans rien. Donc je me demande si, et c'est en ce sens-là que je suis devenu un petit canard, si le libre dans ce qu'il a de plus... intéressant, de plus valorisant, de plus bien commun, je dirais, là, et là c'est plus le politique qui parle, et pas en danger également. Voilà. Bon, je pense que vous avez tous ça en tête. Hein. Bon. Donc, et c'est là où le secteur public peut intervenir, où les politiques doivent intervenir, en faisant des choix et en prônant notamment l'utilisation de libre dans tout ce qui est... administration ou entreprise publique, et le soutien à la communauté du libre ou à tout ce qui est floss, je pense à des entités type Object Web, etc. Et je pense même qu'il faut aller plus loin, et ce qu'a dit Bernard Carrière dans son rapport est à mon avis une bonne idée. Il faut qu'on développe au niveau européen, favorise le libre, le logiciel libre, aussi les méthodes du libre pour le hardware et pour des tas d'autres systèmes liés aux technologies d'information, je pense évidemment à la sécurité. Je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermer, là c'est pas le technicien qui parle, parce que je ne le suis pas, mais pour écouter un peu les discussions de mes amis développeurs, il y a des standards de fait, Java en est un, mais il y a aussi d'autres langages dans lesquels les développeurs européens sont excellents, je pense à Python par exemple. Il ne faudrait pas que sous texte qu'on ait un marketing un peu défaillant, on ne soit pas capable de développer ces langages dans lesquels on est parfaitement bon. Donc je crois qu'il faut vraiment que les communautés du libre soient vigilantes, soient très dynamiques. Et je vous demande de les sommer de casser les pieds aux politiques jusqu'à ce que le politique fasse son métier, c'est-à-dire soutienne ces communautés vivantes et qui sont, à mon avis, les seules capables de redonner à l'Europe sa souveraineté en matière de technologie de l'information.
Merci Christian. On a remarqué que les politiques ont beaucoup soutenu l'interopérabilité de logiciels libres durant le projet de loi d'ATSI.
Oui, les DRM.
Et les DRM. Non, mais c'est ironique. Hein, c'était plutôt l'inverse.
Attendez, pas tous.
Pas tous. Certains, en tout cas. Je précisais juste que FLOSS, c'est le terme européen pour signifier logiciel libre. Hein, c'est Free and Libre Open Source Software. Alors justement, vous avez parlé de l'accord Microsoft-Novell. On a parlé des DRM, il y a les ventes liées, il y a la question du référentiel général d'interopérabilité. Donc ça, c'est un sujet sur lequel en fait Christophe Espern, avec l'April, travaille depuis quelques années et va continuer à travailler. C'est justement sur ces enjeux-là, je dirais, stratégiques de défense du logiciel libre. Et justement, quelle réaction suite à l'intervention donc, de Christian David par rapport à ce danger qu'il pressent par rapport aux différents accords, par rapport aux évolutions législatives et politiques?
Déjà bonjour. Je pense qu'effectivement on est face à des manœuvres, c'est les grandes manœuvres là, auxquelles on assiste. L'accord Microsoft-Novell qui est en fait un accord où Microsoft, à travers cette signature, déclare qu'ils ont des droits de propriété intellectuelle via des brevets logiciels sur un ensemble de briques qui sont logiciels libres, qui ont déjà été développés et qui, en passant l'accord avec Novell, signalent que les entreprises qui auront passé un accord avec Microsoft ont une certaine sécurité juridique sur ce marché et que donc les autres ne l'ont pas. Donc c'est une méthode que moi j'assimile. Libération avait fait un des articles encensant l'accord et parlant de coopétition. Moi j'y vois plus un mécanisme de racket pour une raison très simple, c'est que Microsoft on sait, là, Balmer est sorti là, il y a quelques jours, donc nous l'analyse, on l'a fait bien avant, mais là, Balmer est sorti il y a quelques jours et il confirme. Il dit, Linux, il y a une violation de propriété intellectuelle et les accords comme ceux que je passe avec Novell vont dans le bon sens pour le marché puisque ça va sécuriser juridiquement les clients. Donc ça, c'est un premier point, c'est le retour du brevet logiciel comme modèle économique, sur le logiciel libre lui-même. Donc ça, c'est un problème. Il y a bien entendu toute la partie qui est liée au DRM, donc on a une offensive aussi législative, ça fait des années que ça dure, et à l'origine c'était pas forcément les éditeurs de logiciels qui étaient ceux qui poussaient les DRM et les producteurs de contenu, mais les éditeurs de logiciels, ils voyaient un intérêt de logiciels propriétaires, poussent aussi. Là, c'est une menace pour le logiciel libre. Il y a après les combats classiques, comme tu l'as dit, de Ventlier qui arrivent, et donc les communautés du logiciel libre, qui sont déjà très réactives, ont tendance depuis plusieurs années maintenant à s'organiser aussi dans le champ du débat politique pour pousser, pour promouvoir et défendre le logiciel libre, et bien un objet de politique publique, puisque les discours qui sont développés sont des discours qui vont effectivement de la souveraineté à la réduction de la fracture numérique, puisqu'il ne faut pas oublier que le logiciel libre, c'est accessible à tous, la plupart sont disponibles gratuitement, que c'est vu aussi par certains politiques comme un facteur de développement durable, de maîtrise des finances publiques, et c'est ces éléments-là qui sont des éléments, je dirais, intrinsèques au logiciel libre, qui est un bien commun, qui sont niés par les promoteurs du logiciel propriétaire, qui refusent de voir dans le logiciel libre quelque chose d'autre qu'un simple outil industriel produit par des entreprises. Et quand un politique, puisque là il y avait quand même une expression politique qui était faite par Christian, quand un politique parle du logiciel libre, il fait la promotion de l'outil et du modèle qui va avec. Il ne fait pas la promotion d'un fournisseur. Et c'est pour ça que je trouve assez surréaliste les débats comme au Sénat, où on a en fait des gens qui disent de toute façon, ça c'est pareil, ce sont des outils. Il y a juste une utilisation de la propriété intellectuelle qui diffère. Mais au final, alors, ils trouvent beaucoup d'avantages dans leur modèle pour l'innovation. On pourra en discuter éventuellement après pour montrer que le logiciel libre est une source d'innovation, c'est l'innovation par la collaboration. Je pense à INL qui est un bon exemple, effectivement, quelqu'un qui arrive, qui fait une suggestion, la suggestion est implémentée, on améliore, etc. Et on arrive avec une innovation sur le marché qui permet de faire une différence, mais la négation de tout ce qui est une qualité intrinsèque au modèle de développement collaboratif et à la protection juridique qui va avec. Donc c'est un des objets du champ politique. Nous, on intervient régulièrement sur ces points-là pour sensibiliser les politiques, et c'est là-dessus qu'il y a, à mon avis, une prise de conscience de la part d'un grand nombre de politiques. Au début, on n'avait que quelques personnes, et maintenant, ça se diffuse beaucoup plus largement, et je pense que les combats d'avenir sont extrêmement importants. Les puissances qui vont s'affronter, c'est un point de vue géostratégique, il a été rappelé, il y a des affrontements entre l'Europe et les États-Unis en matière de guerre économique, de compétitivité internationale, de compétition internationale. Il ne faut pas oublier la Chine. La Chine a actuellement investi de façon importante dans le logiciel libre. On parlait d'Object Web. Les Chinois créent Orientware. Orientware, c'est exactement la même chose qu'Object Web, c'est-à-dire c'est sur les couches middleware. Ils reproduisent exactement le même modèle, mais avec une volonté politique très forte, parce que là-bas, on ne se pose pas les questions d'ici de savoir « Oui, mais vous allez porter atteinte à la libre concurrence, vous allez la fausser en intervenant, en faisant la promotion d'un modèle plutôt qu'un autre. » Eux, ils ne se posent pas la question. Aux États-Unis, les Américains avaient très compris comment utiliser la propriété intellectuelle. Tout le mécanisme de mise en place de propriété intellectuelle qui s'est déployé dans le monde, c'est un mécanisme qui a été pensé à l'origine par des politiques à la Maison-Blanche en ayant écouté les entreprises américaines. Donc ça vient pas, c'est pas ex nihilo, c'est créé à partir du marché. Le Brésil, on voit bien ce qu'ils font. Le Brésil, eux, ils ont une politique très claire en faveur de promotion du logiciel libre. Et quand on regarde à travers le monde, les États font des choix. Et font des choix de politique pour faire une promotion de politique industrielle. Et nous, ce qu'on cherche à ramener dans le débat, c'est justement ça. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup de personnes qui sensibilisent les politiques sur les questions industrielles liées au logiciel, nous, on ne gomme jamais l'aspect politique et le fait qu'il faut que les éléments qui sont des éléments, et je pourrais revenir, de phénomènes de société, du logiciel libre aussi, ne doivent pas être gommés. Le fait que c'est un modèle de développement et d'organisation de la production d'outils qui sont fondamentaux pour la citoyenneté, la démocratie, et que c'est fait en se reposant sur des valeurs, ça ne doit pas être go non plus. C'est un ensemble. Alors des fois, c'est difficile de le vendre comme un ensemble, parce qu'effectivement, quand on tire un fil, on se retrouve à parler de droits de l'homme, à parler de citoyenneté, de fracture numérique, de politique industrielle, de souveraineté, de développement durable, etc. Mais je pense qu'il est important qu'on reste aussi concentré là-dessus, et que tous les acteurs, Donc ça va de Sun, effectivement, à INL, qui est un éditeur français, aux communautés, Open Office qui travaillent, doivent chercher le point commun qui, fondamentalement, je pense, c'est les quatre libertés et le fait qu'on souhaite protéger cette émergence d'un bien commun dans l'avenir. Voilà.
Merci Christophe. Ça me fait penser à une chose, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on a, dans les tables rondes de cet après-midi et dans pas mal de débats actuellement, on met beaucoup en avant les standards ouverts. Et j'ai l'impression que dans le débat, on oublie, en fait, que ce qui est plus fondamental, c'est finalement le logiciel libre. Et j'ai l'impression que tu nous expliques, enfin, en tout cas, c'est mon interprétation, que ce qui est aujourd'hui fondamental, c'est de remettre sur le débat, sur le tapis, le logiciel libre avant même les standards ouverts. Et la question que je me pose, finalement, est-ce que la stratégie de certains de mettre en priorité les standards ouverts pour des questions tactiques ou, je dirais, pour des questions de croyances réelles, à terme, ne pourrait pas se retourner contre, finalement, la communauté du logiciel libre ?
Bien sûr que si. C'est-à-dire que les gens qui ne font que la promotion des standards ouverts n'ont, à mon sens, pas vu que c'était une première étape pour diminuer la dépendance. Donc c'est une possibilité. Mais derrière, il faut des logiciels pour lire ces standards qui se complexifient de plus en plus. Et en plus, les différents acteurs industriels développent des stratégies autour de ces standards, non pas pour pousser le standard, ils le poussent pour obtenir un effet réseau sur les logiciels qui permettent de le lire. Et on sait que sur des standards complexes, l'industriel qui l'a implémenté le plus rapidement profite de l'effet. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans le rapport Carillon. Les gens qui travaillent sur les normes au niveau international, qui font les propositions, qui travaillent sur les spécifications, ont une capacité de les implémenter plus rapidement et d'en profiter. Et puis, un standard ouvert utilisé avec un logiciel propriétaire, on n'a pas tous les avantages intrinsèques au logiciel libre, notamment son modèle de développement collaboratif, l'ouverture du code source, les capacités de transparence. Et effectivement, le standard ouvert, c'est une bonne façon de faire comprendre qu'il y a un problème. C'est un bon, entre guillemets, là je vais utiliser le terme, à bon escient, parce que c'est comme ça que c'est quand même utilisé, c'est un bon cheval de Troie, mais pour tout le monde. Pour aussi, on voit bien avec les mouvements de Microsoft sur OpenXML, qui est donc le concurrent du format ODF, ODF étant le format de bureautique pour la suite OpenOffice, et que c'est un standard ouvert normalisé. OpenXML, Microsoft, voyant que cet argument-là est utilisé par les administrations pour basculer en fait vers du logiciel libre, propose son standard ouvert, intervient sur le RGI, qui est le référentiel général d'interopérabilité, qui est mis en place par l'administration pour justement inciter à l'utilisation de standards ouverts, et dit vous ne pouvez pas faire de discrimination entre standard ouvert, ce qui est fondamentalement exact. Mais après, la question, c'est est-ce que le politique va intervenir pour dire oui, mais on veut du standard ouvert, c'est une première chose, mais on veut aussi pousser le modèle de développement du logiciel libre pour toutes les raisons que j'ai évoquées, qui vont bien au-delà de la indépendance, par exemple, de l'administration vis-à-vis des formats de fichiers.
Ok, merci Christophe. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur ce qui a été dit par un autre intervenant, peut-être Sun, sur les formats ?
Oui, sur les formats, effectivement, OpenMount est un format qui a été standardisé dans un premier lieu par l'Oasis et ensuite validé par l'ISO et qui est utilisé certes dans OpenOffice mais dans d'autres suites également. Et la valeur, effectivement, j'adhère tout à fait à aspect standard et à la valeur qu'il y a dans l'utilisation d'un logiciel libre qui exploite ce format. Au passage, la valeur est pas seulement dans le fait que la valeur de la standardisation est dans le fait qu'on va pouvoir manipuler ce format à la limite indépendamment de toute brique logicielle et que cette dépendance que l'on avait entre une suite bureautique, un logiciel et les fichiers qu'il produit, ou plutôt inversement la capacité à séparer le producteur d'un document de ces différents documents. Simplement, oui, Sun a été cité avec l'ouverture de Java dans la même phrase que les accords entre Microsoft et Novell. C'est deux choses qui sont très différentes.
Donc, oui, non, mais c'était dans ce sens-là.
C'était l'intervenant précédent. On parle bien de deux choses très différentes. Java, c'est la mise en open source d'une propriété intellectuelle historiquement de Sun, créée par Sun et toute une communauté il y a 11 ans, n'a pas démarré en open source pour plein de raisons, mais qui a été pour autant, qui a eu beaucoup de succès, qui a créé une communauté. Donc c'est la mise à disposition du plus grand nombre, l'ouverture au monde de GNU Linux en particulier, de cette technologie qui jusque-là effectivement n'était pas open source. Ça n'a rien à voir avec de sombres accords liés à des brevets que l'on a essayé d'ailleurs d'enrober au départ avec des histoires d'interopérabilité sur l'interopérabilité Linux, Microsoft, OpenDocument, OpenXML. Donc on est bien sur deux choses très différentes.
Avant de repasser la parole à Christian Davio, parce que j'ai une question, justement, vous parlez de brevets. Est-ce que la position de Sun, quelle est la position de Sun par rapport justement à la question des brevets, notamment des brevets logiciels, bien sûr?
Les brevets logiciels aujourd'hui existent. Malheureusement, pour la plupart, ils sont issus de et validés par un système américain qui est totalement à revoir, où on est capable de valider comme étant un brevet des choses qui n'ont absolument pas été vérifiées. Donc c'est vraiment une procédure administrative à ce stade aujourd'hui, donc c'est un petit peu difficile d'avoir des choses raisonnables. Maintenant ils existent, donc la problématique est difficile. Ce que je peux dire, ce qui fait plus office de jurisprudence, c'est ce qui a été fait au travers de ce format Open Document. Open Document, historiquement, est l'évolution, la standardisation au travers de l'OASIS d'un format historiquement déjà XML qui venait avec la suite OpenOffice. Ce que l'on a fourni lors de cette standardisation à l'OASIS, c'est ce qu'on appelle un non-assertion covenant qui dit de manière simpliste la chose suivante. Si Sun a des brevets qui visent ce format, qui donc vient d'être standardisé, qui va être utilisé par le plus grand nombre avec des logiciels qui n'est peut-être même pas ni d'origine Sun ni même libre, eh bien si nous avons des brevets, nous ne les utiliserons pas contre les gens qui utilisent ou manipulent ce format. Donc c'est un petit peu une sorte de stratégie de défense qui peut être associée à l'arme nucléaire dans certains cas où j'ai quelque chose mais je ne l'utiliserai pas, sauf s'il se passe vraiment quelque chose, mais jusque-là. Donc voilà un précédent. Sun a mis beaucoup de choses en open source. Sun a appelé cette culture de partage. On la met jusque dans notre marketing aujourd'hui. Ce qui peut faire fuir un certain nombre d'investisseurs. On a après besoin d'aller expliquer que le partage, c'est pas le partage de l'ensemble, qu'on est quand même là pour faire de l'argent. Mais voilà sur l'aspect des brevets, c'est un sujet difficile qui est lié en grande partie à la très mauvaise organisation américaine sur le sujet et qui est mondiale.
Christian Davio, je reviens sur le rapport Carayon. Tout à l'heure, vous parliez logiciel libre de sécurité. Dans le rapport Carayon, il y a une proposition qui est de créer un pôle de compétitivité sur le logiciel libre et plutôt axé d'ailleurs sur la sécurité. Donc ça, je pense que ça va intéresser nos amis d'INL. Donc deux questions. Quel a été l'objectif de cette proposition et où ça en est concrètement?
L'objectif, c'était de... il était multiple. Le premier objectif, c'était de donner une visibilité aux acteurs du libre. Pour le politique, il y a un vrai problème. Quand un éditeur propriétaire va voir un homme politique, il est capable de dire « Voilà, je pèse tant d'emplois, tant de milliards de dollars, la fondation machin, je soigne les éléphants en Afrique, etc. » Bon. Quand on lui parle de logiciel libre ou d'une communauté du libre, c'est quelque chose de diffus. On ne sait pas combien il y a de divisions dans le logiciel libre. En plus, alors on voit un politique, il voit un immense bestiaire apparaître, il voit des noms bizarres pour des distributions, déjà une distribution, qu'est-ce que c'est? Enfin, donc, en plus, cette espèce de partage peut pour certains rappeler des idées politiques un peu dépassées aujourd'hui. Bon, donc il n'y a pas une visibilité suffisante pour que le politique soit rassuré, éventuellement que les investisseurs ou les fonctionnaires soient rassurés aussi. Donc la première idée était celle-là, était de rendre visibles les acteurs du libre, notamment tous les éditeurs qui s'appuient sur le libre pour avoir une activité économique finalement relativement classique. C'était aussi le deuxième aspect... De fédérer, c'est pas le mot, mais de, oui, parce que c'est un problème de fédérer, de donner un lieu à tous les acteurs du libre pour qu'on assiste à une fertilisation croisée qui se produit virtuellement sur les réseaux. Là, l'idée, c'était qu'elle se produise aussi physiquement. Et le troisième élément, c'était évidemment pour bénéficier du principe du pôle de compétitivité, c'est-à-dire que soit aussi consacrer de l'argent public à la recherche en faveur du logiciel libre. Bon. Le logiciel libre au sens large, puisque dans l'idée de Bernard Carayon et de quelques autres, on aurait mis aussi cette partie processeur. On peut faire un processeur à partir à la fois du logiciel libre, entre guillemets, et surtout des méthodes de travail collaboratif. Donc l'idée, c'était aussi de mettre le processeur là-dedans. Alors, Donc, vous savez que vous ne savez pas que les pôles de compétitivité doivent passer devant différents experts, etc. Puis ensuite être labellisés au cours d'un comité interministériel d'aménagement du territoire. Il y en avait un en décembre. Donc, au milieu de l'été, le gouvernement a suggéré à Bernard Carillon et quelques autres d'essayer de monter un projet dans ce domaine-là. Et là, on est arrivé à ce qui se passe fréquemment en France, mais peut-être aussi dans des tas de secteurs comparables au LIP, c'est qu'il y a eu un problème de représentation des acteurs et un problème de chapelle. Et donc, à ma connaissance, on a essayé de réunir beaucoup de gens volontaires pour quelque chose, et puis la zizanie est arrivée en même temps que les bonnes volontés, et la division s'est instaurée, ce qui fait qu'il y a probablement encore quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur un projet de coupe de pôle de compétitivité au fin fond de son laboratoire dans le 13e arrondissement de Paris, peut-être, mais je ne suis pas sûr que le projet émerge au prochain SIAT, qui devrait avoir lieu, je pense, en décembre. Donc,
c'est quoi un SIAT ?
Le comité d'aménagement du territoire. Donc, d'une idée qui était portée par le politique. Et là, je crois que, pour être franc, je pense que le gouvernement... Enfin, là, c'est à titre personnel, hein, vraiment. Je pense que le gouvernement s'est rendu compte qu'en décembre et en mars, il s'est trompé. Sur divers sujets, et qu'en tout cas, il y a un sujet qu'il n'a pas pris en compte, c'est le logiciel libre, justement. Bon. Et il s'est rendu compte que de l'enjeu politique et des enjeux techniques et autres qu'il y a derrière, notamment des enjeux de souveraineté, et donc il a une vraie volonté, je pense notamment au ministère de l'économie et des finances et de l'industrie, où il y a une vraie volonté d'aider le logiciel libre. Hein. Il n'y a pas que le RGI, il y a même des individus très haut placés, des fonctionnaires très haut placés, qui sont vraiment en faveur de logiciels libres, pour l'avoir d'ailleurs implémenté dans, je pense, à la DGI, à la Direction des impôts. Quand vous déclarez vos impôts, ça s'appuie notamment, je crois, l'infrastructure de PKI s'appuie largement sur le logiciel libre. Au passage, on peut regarder qui l'a mis en place. Hein. Bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il y a du logiciel libre dedans. Bon. Donc une vraie volonté, mais elle a été cassée parce que ceux qui prétendaient représenter la communauté de logiciels libres n'étaient pas des gens capables, enfin, ont pas montré qu'ils avaient une grande capacité à travailler avec les autres. Donc là, il faut que les communautés interviennent un peu plus, il faut que les individus se mettent un peu en avant, etc. Quoi. Voilà. Donc, vous avez, parce que je suis pas, hélas, de votre communauté, même si je me pie beaucoup sur vos produits, vous avez, je pense, un problème de représentativité, et c'est notamment valable auprès des politiques. Je pense que c'est aussi le cas auprès des investisseurs, mais ça c'est autre chose. Mais auprès des politiques, une espèce de masse ou de tribus comme ça, représentées chacun par son animal totémique, là. Et puis des personnalités qui ont des opportunistes, quoi, hein, tout simplement, et qui finalement arrivent à casser ce qui, pour le politique sent intuitivement comme étant du bien commun. Donc vous avez un vrai problème de représentativité. Et ceux qui prétendent représenter vos communautés, parfois ne la représentent pas vraiment. Quoi. Je sais que l'APRI l'agace beaucoup, des acteurs de la communauté du libre, notamment. Mais pour le politique, elle est bien vue parce que, enfin, elle est parfaitement athée, parce qu'elle met en avant tout un tas de les enjeux. Alors après, on est capable de faire la part des choses entre la part idéologique de l'April, par exemple, et la part de représentation de la communauté, mais c'est un bon représentant de la communauté du libre parce qu'elle est capable de mettre en avant tous les enjeux liés au bien commun. Voilà.
Heureusement qu'il y a la fin, parce que sinon je commençais à avoir un peu peur. Ça fait penser à une réunion hier à la DGCCRF sur la question des ventes liées, sur les consommateurs. Il y avait quand même 4 organisations de consommateurs qui là, et visiblement, ils ont un problème aussi de représentativité, de discours cohérent entre eux. Mais bon, ceci dit, c'est une autre histoire. Donc avant de passer la parole à la question de la salle, l'échange, une petite question donc à Éric Leblond, INL. On a parlé de pôle de compétitivité logiciel libre axé sur la sécurité et pas que. Est-ce que vous attendez ce genre de choses? Et deuxième question, par rapport aux craintes qu'a évoquées Christian Vieux lors de sa première intervention, quelle est votre position?
En fait, il y a une problématique, je pense, d'échelle, puisque la plupart des pôles de compétitivité tels qu'ils ont été faits reposent sur des projets à plusieurs millions d'euros. Et on part dans le logiciel libre sur des initiatives individuelles qui peuvent après déclencher de grands phénomènes, de grands mouvements. On part petit pour jouer gros, on part pas gros pour jouer gros. Si on joue gros, c'est que ça se fait naturellement de toute façon. Donc on a une problématique d'échelle à ce niveau-là. Oui, c'est quelque chose qu'on attend, mais on a des difficultés, je pense, pour avoir des projets de taille. On va pas faire un A380 quoi, en logiciel libre, c'est pas... c'est pas cohérent. Donc on a vraiment un problème de taille et de...
Donc le logiciel libre réglerait le problème de l'incompatibilité des logiciels en Allemagne et en France en 1980.
C'est vrai qu'on aurait pu gagner du temps dessus, oui.
Et de l'argent. Et sur la partie, je dirais, l'inquiétude de, évoquée par Christian Davio, je dirais, sur les dangers qui pèsent sur le logiciel libre, et vous êtes directement concerné en tant que, finalement, éditeur de logiciel libre. Est-ce que vous êtes aussi inquiet ou après, vous êtes plutôt optimiste ?
Je reste assez optimiste. J'ai remarqué un terme que j'ai bien aimé tout à l'heure, c'était « bien commun ». Et je voudrais juste l'illustrer à travers de ce qu'on a entendu là tout à l'heure. On a parlé beaucoup de propriété intellectuelle, forcément. Alors, on a entendu plusieurs fois parler, notamment au niveau de Microsoft, qui nous a dit « on viole notre code dans Linux ». Bon, on viole notre propriété intellectuelle, pardon, dans Linux. Comment peut-on violer déjà quelque chose qu'on ne connaît pas ? On ne sait même pas ce qui est implémenté dans Windows, il suffit de voir la doc qui est distribuée. Donc, ça semble assez difficile. Donc là, on a une notion de propriété intellectuelle qui est assez floue, c'est propriété intellectuelle sur une idée. C'est assez basique. Ensuite, on a Sun qui dit « je mets en position le code de Java, donc ma propriété intellectuelle ». Là, on a une notion de travail, de choses qui sont fournies et qui sont mises en œuvre. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus tangible déjà au niveau de la propriété intellectuelle. Et après, on reste à chaque fois dans quelque chose qui est du code de l'idée de Microsoft, du code de Sun. On reste dans quelque chose de cet ordre-là. J'ai regardé le changelog du kernel Linux il n'y a pas longtemps sur une des dernières versions.
Le changelog,
c'est... Pardon, excusez-moi, le suivi des modifications effectuées sur le noyau Linux. Et en fait, il y a une nouvelle structure qui a été mise en place et qui permet de faire du suivi de qualité, qui est de dire que lorsqu'on fait une modification, on a une personne qui doit vérifier, une deuxième personne qui doit vérifier, et ainsi on a une chaîne de responsabilité, une chaîne qu'on pourrait qualifier de cooptation des modifications, qui permet de valider le code. Et j'ai trouvé assez amusant, c'est qu'on avait une modification faite par quelqu'un, validée par HP, validée par IBM, et je crois en prêt revalidée par quelqu'un de chez HP. Donc on se retrouve sur une structure où les intérêts économiques ont complètement explosé. On se retrouve là réellement sur des biens communs, sur le plus grand projet open source, sur le projet qu'aucune boîte au monde n'est capable seule de faire, à savoir Linux. Là, on se retrouve vraiment sur du bien commun. Et ce que j'espère, c'est pour ça que je suis optimiste, c'est que j'espère que cette notion de bien commun arrivera à passer et qu'on arrivera à sortir des purs problèmes mercantiles de sociétés qui décident de voir leur propriété intellectuelle pour une propriété plutôt de bien commun sur le logiciel libre. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, effectivement, comme on disait tout à l'heure, les standards ouverts, qu'on travaille sur les standards ouverts, mais qu'on n'oublie pas le côté bien commun du logiciel libre.
Je suppose que...
Oui, donc en fait, il y a juste rebondir sur deux choses. D'abord, sur l'aspect l'open source dans le domaine du matériel. Effectivement, pourquoi se réduire au logiciel ? On a, alors j'ai plus la date en tête, mais ça doit être il y a à peu près 6 mois, mis en open source le processeur Spark, d'origine Sun, Open Spark. Et au passage, c'était la première utilisation de la GPL par Sun avant la mise en open source de Java. C'est le premier point. Et le deuxième point, qui est une conséquence du premier, c'est que c'est quelque chose qui a permis une modification du kernel Linux pour mieux fonctionner sur ce genre de processeur. Donc derrière, on a une modification qui a été faite, non pas par Sun, qui n'a pas les privilèges nécessaires, ni même la légitimité d'être dans un certain nombre au moins de chaînes de responsabilité, une modification qui a été rendue possible directement dans les 3 mois qui ont suivi cette mise en open source du processeur Spark. Donc la stratégie, en tous les cas, au niveau Sun, elle est vraiment globale sur cet aspect open source. Ça n'est pas une brique seulement Java pour une raison tactique à un instant donné, c'est véritablement sur l'ensemble des logiciels, y compris donc maintenant du matériel.
Merci. On va passer donc à l'échange avec la salle. Je crois qu'il y a un micro, ou alors c'est peut-être moi qui ai le micro baladeur. Donc s'il y a des questions, je vous passe mon micro, ou à moins qu'il y ait un deuxième micro. Est-ce que quelqu'un peut juste amener le micro
Oui, bonjour à tous. Je voudrais rebondir et puis profiter qu'un politique parmi nous à propos de tout ça. C'est que j'étais tout à l'heure avec des 6e et des 5e parce qu'il y a un point cyber qui m'a contacté pour que j'aide les enfants un petit peu à comprendre le monde de l'internet, tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué pour eux. Et juste avant d'y aller, je suis allé à ma boîte aux lettres et puis il y a l'administration fiscale, vous en parlez tout à l'heure, qui a envoyé un document qui m'explique gentiment qu'il faut pas que j'oublie de bien numériser tous les documents et que je les fournisse sous un format numérique qui soit lu sans aucun logiciel. Exemple PDF. Donc, l'administration fiscale a bien compris comment fonctionnait le truc. Voilà, ça c'était juste une aparté, donc il y a encore pas mal de chemin à faire, je crois. Et donc, le deuxième point, c'est par rapport au logiciel libre, au développement, la mise en communauté, etc. Est-ce que quelqu'un peut me répondre qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants qui sont aujourd'hui en 6e, en 5e, qui comprennent absolument pas du tout, mais alors, du tout de quoi on parle, qui sont nés avec Internet, qui sont nés avec les machines. Pour eux, c'est un tout. Un ordinateur, c'est comme un téléphone. Ils savent même pas ce que c'est qu'une extension. Ils savent même pas ce que c'est qu'un fichier. Ils savent même pas ce que c'est qu'un dossier. Ils savent même pas ce que c'est qu'Internet. C'est juste, je clique et puis j'y vais. Donc, l'interrogation, moi, je suis plein d'espoir parce qu'ils sont très demandeurs. Ils m'ont posé des millions de questions. Est-ce que j'ai le droit de télécharger? Est-ce que je vais en prison si je télécharge? Est-ce que mes parents vont aller en prison? Mais j'avais qu'à pas inventer Emule, hein, si vous voulez pas qu'on télécharge. Vous voyez dans quel biais on est. Donc, par rapport au logiciel libre et la notion de communauté de partage, je pense, comme la science, je pense qu'il est extrêmement important que ça aille jusqu'à l'éducation nationale et qu'on commence par nos enfants pour qu'ils comprennent plus tard qu'ils l'ont déjà en eux, comme ils ont déjà en eux un outil informatique. Quoi. Voilà, c'était deux petites remarques par rapport à ça.
Alors, je vais laisser les gens répondre, mais ça tombe bien, en fait, ta question sur les enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an ou deux, le ministère de l'Éducation nationale avait fait participer, je dirais, à une campagne de propagande pro-Microsoft dont l'Éducation nationale avait des guides appelés Net Attitude. Que certains d'entre nous avaient grandement contribué à corriger, mais qui restait tout à fait inacceptable. Et l'un de ses partenaires, en fait, de cette campagne, ayant compris qu'il y avait un petit souci quand même, nous a contacté par la suite pour la mise à jour d'une nouvelle version d'un guide, qui est celui qui est distribué dans Sciences et Vie Junior, donc c'est l'Internet sans embrouille, donc je l'ai reçu, en fait, tout à l'heure. Et par rapport à l'autre version, je dirais que sur la partie téléchargement, ça s'est amélioré, même si ça reste quand même très limite, mais ça s'est quand même amélioré. Mais ce qui est nouveau déjà, c'est qu'il n'y a pas de pub pour des outils de logiciels propriétaires dedans. Et puis, il y a quand même quatre pages, deux sur le logiciel libre expliqué pour les enfants, qui a été basé en fait sur une interview que j'ai faite avec la journaliste, et une autre page qui est sur l'accès à l'information, et l'exemple, notamment, c'est Wikipédia. Donc là aussi, on ne fait pas que des partenariats avec Zéro Informatique pour le business. On essaye aussi d'améliorer ces guides, malgré le fait que la partie téléchargement laisse beaucoup à désirer. Mais je pense que là, par contre, le politique a un rôle à jouer. Quand on regarde, là, c'est la question... Enfin, vous n'êtes pas politique, Christian, contrairement à ce que dit Mathieu. Mais c'est effectivement quand on voit que dans les écoles aujourd'hui, et on le voit aussi dans beaucoup de cyberbases, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une cyberbase où, en fait, il y a du logiciel libre qui est quand même présent sur les postes en libre accès. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cyberbases qui sont que en propriétaire. Et quand on voit le ministère de l'Éducation nationale, et notamment la DUI, donc la délégation des usages de l'Internet, qui fait de la propagande pour les outils propriétaires, qu'est-ce que le politique peut faire? Ou qu'est-ce qu'il devrait faire?
Moi, je me demande si les politiques, voyant arriver l'imprimerie et le livre, ne se sont pas posé même de questions avec le siècle. Je crois qu'il va y avoir des années de transition qui vont être catastrophiques pour certains métiers et une opportunité fantastique pour d'autres. Le livre a tué les conteurs qui allaient de village en village animer les veillées, j'imagine. Hein. Peut-être tuer quelques métiers comme ça. Donc là, il y a les grandes majors du disque qui n'ont pas vu Internet arriver. C'est pour ça qu'elles ont fait ce qu'elles ont fait. Bon. C'est pour ça qu'elles ont perdu, d'ailleurs. Il faudra qu'elles trouvent autre chose. Elles commencent à trouver autre chose, d'ailleurs, pour d'autres propositions marketing pour retrouver et reconquérir leur marché. Donc je crois qu'il y a un mouvement qui est engagé et les enfants dont vous parlez, c'est eux qui vont aller au bout de ce mouvement-là. Il y a juste un problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on leur tire le tapis sous les pieds. Et je crois qu'on a parlé un temps, je ne connais pas très bien le sujet, mais de réserver de la bande passante à certaines, de vendre de la bande passante ou de la réserver à certains sites ou à certains. Ça, ce serait extrêmement grave. Parce que Internet contient en lui-même, par principe, ce qui fait la force du libre aussi, ce bien commun. Bon. Or là, si on commence à tronçonner la bande passante et à la louer ou à la vendre à tel ou tel, on va mettre nos enfants dans un, on va les mettre dans le mur, hein, et on va leur mettre l'eau à la bouche avec un système qui est fondé sur le partage de la connaissance, sur le pire aussi, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses sur Internet, faut pas oublier ça non plus. Mais enfin, sur le partage de la connaissance, sur la construction, sur la pseudo-communication, parce que ça reste très virtuel, etc. Mais on risque de les mettre dans le mur. Donc c'est à ça qu'il faut vraiment être vigilant. Et encore une fois, la communauté du libre a un majeur à jouer là-dedans. Il faut absolument pas laisser faire ces pratiques naturelles pour des gens qui vivent dans les communes de marché, qui veulent faire du fric, quoi, hein, mais qu'il ne faut pas laisser faire sur un sujet aussi beau que ce que permet Internet. Quoi, voilà. Donc moi, je suis très optimiste là-dessus, sauf qu'il faut être vigilant et pas laisser les dérives aller vers là où elles vont. Quoi.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur la question ou non?
Je pense que sur la question de l'éducation, effectivement, il faut former l'éducation nationale pour qu'elle diffuse une information que je qualifierais, et là je vais reprendre un terme que j'ai entendu des représentants de Microsoft, d'agnostique. C'est-à-dire qu'ils prônent souvent qu'il faut être agnostique vis-à-vis, et bien là, il faudrait qu'ils soient agnostiques directement dans l'école, parce que ça porte atteinte à la neutralité scolaire, ça pose des questions qui vont au-delà de nos problématiques de logiciels. Peut-on faire de la publicité dans les écoles? Peut-on envoyer, comme ce qui s'est fait, 150 commerciaux d'une entreprise pour aller former les élèves à la sécurité informatique? Enfin, ça pose ces questions-là. Mais c'est un travail aussi qui est un travail sur le long terme. Je sais plus qui, Philippe Aigrin, lors de la table ronde du 18, il y a quelques jours, qui disait qu'il a fallu 30 ans à peu près pour que les gens qui portent ce qu'on appelle le fondamentalisme de marché, c'est-à-dire où on voit toute la société par le seul prisme de l'augmentation de l'économie de marché, pour qu'ils arrivent effectivement à cette domination un petit peu de la pensée qu'ils portent, etc. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Dans 20 ans, effectivement, ça, le monde aura changé, les gens ont évolué, et je pense que les modèles de développement collaboratif, le logiciel libre, fait la démonstration que ça fonctionne, notamment pour le développement logiciel, mais a inspiré ensuite Wikipédia, les Creative Commons, etc. C'est lié à Internet. Effectivement, si on détruit pas Internet avec des modèles comme la neutralité du net, c'est-à-dire de savoir si les paquets sont traités plus rapidement pour un destinataire donné, même s'il est hors du réseau de l'opérateur, ça risque d'induire effectivement une inégalité dans la possibilité de s'exprimer, de mettre à disposition et aussi de travailler de façon collaborative. Et là, il y aurait des vraies problématiques. Donc, il faut être très vigilant. Il y a ça, la neutralité du net, et je pense tout ce qui relève de l'informatique dite de confiance, c'est-à-dire tout ce qui est vous ne pouvez autoriser sur votre ordinateur, exécuter sur votre ordinateur que les logiciels qui sont reconnus par la puce qui est dans votre ordinateur. Donc ça c'est une vraie menace pour le logiciel libre interne. Donc il y a quelques grosses, il y a les brevets logiciels qui planent, et puis après il y a un travail de fond à faire auprès de l'éducation nationale, mais pas seulement, ça va aussi auprès, je pense, des collectivités territoriales, qu'il faut rappeler sont décideurs dans l'équipement des collèges, etc. C'est là que prend la décision aussi monétaire. Les ministères, avec la décentralisation, n'ont plus le même pouvoir qu'ils avaient auparavant. Et là, je vais juste citer pour faire peur, Microsoft a une base de données de 12 000 noms politiques. Donc c'est pas rien, 12 000 noms. Ils ont tous les conseillers généraux, tous les conseillers régionaux, tous les députés, tous les sénateurs, tous leurs assistants, tous les ministères, tous les hauts fonctionnaires qui travaillent dans les cabinets. Voilà, c'est tous les directeurs achats, etc. Ils ont une capacité assez importante. Et c'est, je pense qu'au niveau local, il faut qu'il y ait des gens qui se bougent et qui aillent signaler qu'il y a d'autres alternatives. Voilà.
Pour aller dans le sens de Christophe Espern, Microsoft aussi a passé des accords de finance, une part de l'INRIA finance, a passé des accords avec l'école polytechnique, etc. Donc il y a un lobbying très actif, très, très malin, un peu gros, un peu lourd, mais enfin quand même bien vu de la part de Microsoft. Donc il faut aussi, là, encore une fois, que la communauté du libre se manifeste d'une manière ou d'une autre là-dessus. Hein. Donc dans cette mer où on voit un horizon radieux, il y a malgré tout quelques requins de grande profondeur qui sont là pour éviter qu'on vienne s'ébattre gaiement. Voilà.
Heureusement, elle a pris l'ancienne AGR. Il y a d'autres questions?
On a parlé de propriété intellectuelle, de brevets. On sait que les brevets logiciels n'ont pas cours en Europe officiellement. On sait aussi que pratiquement c'est pas tout à fait le cas. Il y a le brevet communautaire qui est en travaux, je crois, à Bruxelles. Il faudrait savoir dans quelle mesure il va inclure une dimension logicielle et quel est l'état des lieux sur ce. Alors c'est peut-être à Christophe qu'il faut poser la question.
Sur le dossier donc du brevet communautaire. Donc déjà il y a eu quelque chose qui a été ratifié, c'est le protocole de Londres. Le protocole de Londres, c'est le fait que des brevets, la langue de dépôt de brevets peut être l'anglais. Donc pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait c'était un obstacle, et là, c'est pour tous les brevets, donc y compris les brevets que je qualifierais de légitimes dans les industries lourdes, avec une mise en œuvre de méthodes qui mettent en œuvre les forces de la nature, comme dirait Michel Rocard. Et donc, c'était très difficile de déposer des brevets dans toute l'Europe avec tous les offices européens. Donc la langue qui a été choisie, c'est la langue anglaise. Alors ça veut dire que tous les portefeuilles existants aux États-Unis pourront être déposés massivement d'un coup si le brevet logiciel devient autorisé officiellement, puisque actuellement il est l'OEB délivre des brevets, mais en violation en fait du droit européen. Donc elle va à l'encontre de de l'intention du législateur. Donc lors du brevet communautaire, il va y avoir un le brevet communautaire, c'est quelque chose qu'à mon avis, on ne va pas pouvoir aller contre. Parce que les gens qui veulent du brevet pour des raisons tout à fait légitimes, ont un intérêt, il y a un intérêt à le faire et pour éviter effectivement cette balkanisation du marché. Après, là il va falloir être très clair et très attentif, très prudent, voire très offensif, c'est pour faire inscrire effectivement cette distinction tout à fait notable qui est les méthodes de traitement de l'information en tant que telles ne sont pas couvertes par les brevets. Alors ça va beaucoup plus loin, c'est la définition qui avait été donnée par les députés européens, enfin par certains, qui étaient poussés par certains députés européens et qui a fait qu'on a jamais vu la directive sur les brevets logiciels parce qu'il y avait une peur quasiment des deux côtés, mais y compris du côté des gens qui poussaient le brevet logiciel, qu'en fait ils se prennent un texte qui allait clarifier le fait que les brevets logiciels sont interdits. Donc là, il va falloir être attentif, et à mon avis, on va avoir exactement les mêmes problématiques que ce qui s'est passé sur le projet de directive. Ça va être une bataille extrêmement intense, et où il faudra être tous attentifs, quoi, parce que les forces sont importantes.
Attentif et actif.
Oui, et actif. Bon, c'est une agitation.
Trop. J'ai une question notamment pour Christian Davio. Vous nous dites, bon, il faut que la communauté se manifeste, il faut que les citoyens se manifestent en direction du politique. Au moment de la campagne d'AFTI, on a une pétition qui a fait 170 000 signatures à peu près, donc il y a historiquement une des plus grosses pétitions électroniques en France. Il y a une campagne d'information à destination des politiques qui a été relativement efficace, relativement carrée. La question que je pose, elle est en deux temps. D'abord, quel est le bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'impact de cette pétition et de la campagne qui a été faite au niveau des politiques? Première chose. Et deuxième chose, si bug il y a eu, qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois pour améliorer l'efficacité de l'expression des communautés vers les politiques? Quels sont les liens, les canaux de communication qu'il faudrait mettre en place avec des choses relativement simples et concrètes?
Ça a été bien fait, mais je pense qu'il fallait agir avant que la directive ait été approuvée par la France 4 ans auparavant. Voilà. Donc la campagne qui a été faite, menée de main de maître par l'April en décembre, a été remarquable, efficace. Vous avez pu voir, pour ceux qui ont suivi ça de près, ils sont nombreux, que les amendements qui étaient sur le site de l'April se sont retrouvés dans tous les partis, dans tout l'hémicycle. Hein, donc le travail de lobbying a été remarquable. Simplement, le travail, ça a été fait trop tard parce que les députés ont vu ça très tard. Le gouvernement, lui, a subi des forces telluriques de divers endroits de l'univers. Et donc, on n'a pas pu. Il a manqué quelques mois. Bon. Donc il faut s'y prendre nettement à l'avance. Là, par exemple, sur le brevet logiciel, il faudrait travailler nettement les députés au corps et les ministères, etc. Il faut toujours anticiper.
J'aurais juste rebondir quand même, parce que bon, je suis d'accord sur le fait d'y anticiper, et que notamment sur la directive brevet logiciel, on l'a pris suffisamment tôt avec la FF2I, et bien avant encore dans l'initiative Eurolinux, et c'est à peu près la même période, il faut simplement s'en souvenir, donc on ne pouvait effectivement pas être sur tous les fronts, mais je ne peux pas laisser passer le fait que ce soit trop tard. La prise de conscience des dangers du projet de loi était très claire chez le gouvernement, qui a choisi de passer force pour faire plaisir à certains lobbies de façon très claire, qui a été poussé par le président de l'UMP. Il faut être très clair, sans le président de l'UMP, ce projet de loi ne serait jamais passé. Donc voyons, il faut être assez clair. Et je crois que, quelle que soit la force de la pétition, ce projet de loi passait. C'est pas le fait qu'on soit parti trop tard qui aurait changé quoi que ce soit, enfin qui a changé quoi que ce soit. Je crois qu'on est parti au bon moment, au contraire. Et la grande force, par contre, qu'on a réussi à obtenir de la part du projet de loi d'ATSI, c'est qu'aujourd'hui, on a des soutiens qui sont durables, à mon avis, chez tous les partis, que ce soit au PC, chez les Verts, au PS, à l'UMP, à l'UDF, etc. Mais clairement, ce projet de loi a été voté dans des conditions de déni de démocratie honteuses, et rien n'y aurait changé.
Ouais, moi, je partage pas cette analyse. Je pense que si le travail de fond avait été engagé 4 ans avant, les partis auraient été moins scindés, ou au moins la minité. Je peux parler peut-être un peu plus pour l'UMP. Il y avait quelques députés convaincus à l'UMP. Si on avait travaillé l'UMP au corps 4 ans avant, il y aurait eu peut-être une majorité de députés à l'UMP convaincus que c'était qu'il fallait pas aller dans ce sens-là. Point.
On en reparlera autour d'un verre.
Ce sont des gens, les députés sont des gens intelligents.
Qui sont soumis à des pressions, effectivement.
Normalement.
Que la mairie leur éprouve. C'est un certain député UMP sur France 2 qui a dit qu'il allait éclairer l'opinion publique sur les conditions déplorables de ce débat sur France 2. Dans une interview, il disait effectivement que les députés avaient été sous des pressions, que la morale réprouve est anti-républicaine. Je suis quelque part étonné que jamais on ait été éclairé par ce député qui, par ailleurs, a fait beaucoup de choses.
Non, mais justement, quand il y a eu ces pressions, les députés l'ont dit. Et si on n'a pas dit qui, comment.
Mais enfin... Ah ben oui, mais justement, à un moment, il faut éclairer l'opinion sur les vrais débats, sur les vrais enjeux et sur les vraies pressions. Non, bon, mais je pense qu'on va revenir à notre sujet de.
Un point anecdotique. Nous, on a, pour des raisons, on est à cheval sur deux circonscriptions. Donc, on a déposé deux dossiers à nos deux députés. L'un a accusé réception et nous a dit tout bien qu'il pensait de cette démarche. L'autre n'a même pas accusé réception. Voilà. L'un est le député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine et l'autre est celui du 15e.
Oui, alors ça ne marche pas pour le deuxième arrondissement, mais vous savez qu'il y a eu effectivement... Il y a eu effectivement des chantages, enfin il y aurait, puisque je ne peux pas donner de nom, d'ailleurs je ne les connais pas moi-même, enfin, il y aurait des chantages auprès de députés qui ont des festivals culturels ou artistiques dans leur ville, qui sont largement, enfin qui ne tiennent financièrement à l'équilibre que parce que quelques lobbies du disque ou du cinéma les soutiennent. Bien évidemment, si ce député prend fait et cause pour telle ou telle proposition qui ne va pas dans le sens des lobbies qui soutiennent par ailleurs son festival, le festival tombe. Donc pour un politique, s'il n'est pas convaincu longtemps à l'avance, s'il n'est pas travaillé au corps longtemps à l'avance, avec l'avis de son conseil municipal ou de l'Assemblée départementale, le choix s'est très vite fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut démarrer très très tôt. Mais encore une fois, les politiques sont des gens qu'on est capable de raisonner. Le bien commun et l'intérêt général, ils savent ce que c'est. Et ils sont capables, quand on leur explique les choses clairement, de faire la part entre les intérêts particuliers, l'influence, les lobbies, l'argent, etc., l'emploi même d'ailleurs, et l'intérêt général. Simplement, il faut leur expliquer longtemps à l'avance. Et comme il y a des pratiques séculaires, on pourrait dire, de malversation, c'est connu de tout le monde, hein, et ben, il faut aussi ramer contre ça. C'est pour ça qu'il faut, il faut partir longtemps à l'avance. C'est lèvre et la tortue, il faut partir très longtemps.
À l'avance. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Réaction, Francis Muguet.
Oui, si tu effectivement, faire... on en fait allusion, si tu peux faire, on fait allusion à Suguenot, effectivement. Je pense qu'actuellement, j'espère que cette loi d'AFSI va être disons considéré. Je pense que certains candidats ont pris des engagements à ce niveau-là, donc il n'est pas trop tôt pour commencer pour la reconsidération de cette loi d'AFSI. Et d'autre part, je crois qu'il y a aussi un point qui a compté énormément pour certains députés, c'est le problème des DRM. Certains députés ont cru que la seule solution pour assurer une certaine rémunération des auteurs, c'était les DRM. Et après, en conséquence, ils ont pris toute une vision, j'allais dire, liberticide dans le débat. Alors, je pense qu'il y a une considération qu'il faut faire au niveau éducation, d'ailleurs. Bon, il y a eu la proposition de la licence globale. Je pense qu'elle n'est pas complètement idiote. Il faudrait quand même la considérer. Certains candidats ont pris l'option de voir, de considérer une forme de licence globale. Et à ce sujet-là, je propose une forme... Nouvelle forme, ça s'appelle le mécénat global, dont je viens de lancer le site hier d'ailleurs, mécénatglobal.org, qui se base sur un système de rémunération des artistes qui ne fait pas appel justement à une société de consommation, c'est-à-dire que ce n'est pas la consommation mais ce sont l'appréciation, et au niveau juridique on ne passe pas par le mécanisme de l'exception des droits d'auteur, par conséquent on n'est pas lié à ce qui a été négocié, j'allais dire, par le gouvernement au niveau européen. Et par conséquent, on peut s'appliquer. Alors, une petite remarque, d'ailleurs, sur les négociations européennes. Il y a un petit problème au niveau, j'allais dire, de la division entre le travail du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Quand l'exécutif décide de traiter au niveau européen, et qu'ensuite ça arrive au niveau des députés, à ce moment-là, on arrive que le pouvoir exécutif a empiété sur le pouvoir législatif, et que les députés se trouvent, et ça, quand on rencontre les députés, c'est clair, ils se retrouvent avec un diktat qui a été négocié bien antérieurement et sur lequel ils ne peuvent rien dire.
Tu ne m'as pas habitué à des coupures aussi nettes, excuse-moi. Tu as évoqué le sujet des DRM. Bah justement, comme on a Sun ici et puis Christophe, il y a eu un débat, je dirais, ou peut-être faux débat, j'en sais rien, sur la notion de DRM libre. Alors, je voudrais l'avis de Christophe sur ce sujet-là et puis je voudrais l'avis de Sun sur le projet DREAM, qui, si j'ai compris, bien compris, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, serait un DRM en logiciel libre. Donc je ne sais pas qui veut commencer des deux.
Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, le débat sur les DRM libres. Alors, un DRM, l'objectif, c'est de contrôler l'usage de l'information, on va dire, qui est traitée par la machine. Voilà. Donc, vous recevez une information et il faut contrôler l'usage en vous empêchant, par exemple, de faire des copies. Un logiciel libre, c'est un logiciel que tout le monde peut utiliser, soit copier, modifier. Et modifier, pour moi, j'entends, quand je le modifie, que la fonctionnalité que j'y ajoute, la copie de l'information que je, sur laquelle on devait mettre un contrôle, je puisse l'exécuter, la fonctionnalité. Donc pour moi, un logiciel libre, c'est un logiciel que je peux forcément modifier, réexécuter sur ma machine, modifier, et qui par conséquent me permet de neutraliser, contourner le dispositif technique de contrôle. Et le contournement peut être tout à fait légal, licite, puisqu'il peut viser un usage tout à fait licite. Je pense à la copie privée, par exemple, la copie privée a un format qui n'était pas prévu par le concepteur du DRM original. Alors ensuite, il s'est greffé deux... Alors nous, c'est ce qu'on a défendu dès le début, on a dit les DRM fonctionnent sur de la protection par le secret, tous ceux qui existent fonctionnent comme ça, donc si on commence c'est antinomique avec l'ouverture du code source et tous les droits qui sont concédés avec les licences. Et puis là, on a vu arriver deux discours parallèles. Le premier disant, oui, mais on peut faire des logiciels libres qui sont signés, le binaire, donc la forme exécutable du logiciel, pas le code source, la forme exécutable est signée et s'exécute sur la machine et toute version modifiée ne peut plus s'exécuter. J'ai l'impression d'avoir perdu des libertés dans l'histoire qui étaient d'exécuter mon code modifié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'informatique de confiance. Et il faut, moi je tiens, parce qu'on a eu un débat avec le... avec, je ne me rappelle plus son prénom, mais quelqu'un de Sun, il y avait Eric Mahé, il y avait et Gilles Gravier, et on est tombé tout à fait d'accord sur le fait que ces mécanismes de certification, de binaire signé, sont tout à fait acceptables dans des entreprises, des organisations où il y a un administrateur système qui contrôle qu'est-ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre sur le périphérique. Après, quand on passe dans le grand public, ça soulève des enjeux éthiques extrêmement importants, parce qu'on est vraiment en face de boîte noire, et vraiment avec une impossibilité d'audite même du code qui s'exécute. Ça, c'était la première réflexion sur le DRM dit libre. Et il y a eu le deuxième, alors là, c'était assez surréaliste, qui disait, il y a 95% des gens qui sont incompétents, donc si on met un DRM libre, qui est exactement le même, les 5% qui vont modifier le code... comme c'est interdit de distribuer le code modifié, puisque c'est un contournement de mesures techniques, donc on tombe sous le coup de la loi qui interdit de diffuser un outil permettant de contourner un DRM, de le neutraliser, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était la sécurité par l'ignorance. Et croire que en moins d'une demi-journée, on n'allait pas avoir des versions précompilées avec les modifications faites, et que c'est ces versions-là qui allaient être téléchargées sur Internet, à mon avis, ça relevait d'hypocrisie. Alors nous, on a refusé de défendre et l'un et l'autre. On a simplement dit, voilà, faire du DRM en logiciel libre, c'est quelque chose, ça nous semble totalement antinomique, ne serait-ce que sur l'essence même du logiciel libre, qui est de rendre le contrôle de la machine à l'utilisateur via toutes ces libertés qu'on a autour du logiciel. Donc ça nous semble totalement antinomique, enfin en tout cas, moi.
Alors, lors d'un célèbre déjeuner de Renaud Deneudieu-Vabre avec des blogueurs qui a été diffusé sur Internet, l'un des participants à ce déjeuner, que je ne cite pas, a évoqué DRIM comme étant justement la solution DRM logiciel libre. Est-ce que vous pourriez simplement donc nous présenter ce qu'est DRIM ? Est-ce que ça recouvre exactement par rapport à cette question finalement de DRM logiciel libre ?
Oui, je peux essayer, je ne suis pas forcément le mieux placé malheureusement. Gilles et Eric sont effectivement mieux que ça. DRIM est un projet dans les labs de Sun aujourd'hui qui est né du constat qu'aujourd'hui, d'un point de vue consommateur, on avait ces DRM qui étaient une réalité et que ces DRM étaient en plus incompatibles les uns par rapport aux autres. Et l'exemple classique, c'est ce que vous achetez chez Apple qui ne marchera que sur un ordinateur donné, que sur un iPod donné et qu'on ne pourra graver qu'un certain nombre de fois. Enfin, il y a toute une série de restrictions. On est en train de voir l'arrivée d'un système tout à fait similaire côté Microsoft, et puis il en reste d'autres. Donc la volonté a été d'essayer de rendre interopérables ces différents systèmes. Et là où intervient l'aspect open source, c'est dans la capacité à dire que le système de DRM peut, dans tous les cas, c'est la prétention qu'on a avec ce projet, être implémenté en open source. Simplement, il y aura effectivement derrière cette phase qui consiste à signer, certifier, verrouiller le logiciel à un instant donné pour garantir, c'est un petit peu d'ailleurs associé à ce que l'on fait, y compris dans le monde Java, où Java fait référence à quelque chose de très précis. C'est pas simplement une marque, c'est quelque chose qui fait référence à un produit qui a un nombre de fonctionnalités extrêmement précis. Il y a des tests de compatibilité, et ces tests de compatibilité sont absolument obligatoires. Et si l'on veut appeler son logiciel, en tous les cas son implémentation, sa JVM, comme étant quelque chose de Java, ceci au passage reste dans le passage au libre. Donc cette notion, on peut faire une JVM en libre, on peut la modifier, on peut même enlever les fonctionnalités, mais on n'a plus le droit de l'appeler Java. Derrière, il y a la notion de marque, de trademark et de test de compatibilité. Donc si vous voulez, ce projet Dream, il est là pour essayer de corriger un monde très imparfait et le rendre moins imparfait. Je ne sais pas quand il doit déboucher, s'il doit déboucher, s'il est raisonnable ou pas. Mais c'est quelque chose qui, au passage, a été créé pas simplement parce qu'on a vu des consommateurs ennuyés de ne pas pouvoir écouter la musique qu'ils ont pourtant achetée. C'est vraiment parce qu'il y a eu une certaine demande de la part des, à la fois des industriels de ces marchés-là et d'un certain nombre de clients qui sont des clients de Sun et qui, par ailleurs, ont des demandes d'interopérabilité. Donc, difficile de vous en dire beaucoup plus, par contre.
Bon, merci de cette réponse, effectivement, compte tenu du contexte où vous n'êtes pas forcément effectivement le plus connaisseur de Dream. Merci. Alors, ça ne m'étonne pas que la question suivante vienne de Loïc.
Donc, Loïc Dachéry. Bonsoir. Moi, j'ai une interprétation simple de ce que fait Sun avec Dream. C'est qu'il fait une opération marketing sur le terme DRM. Il met derrière DRM quelque chose qui est raisonnable, qui est le contrôle d'accès. Et il market avec un terme qui est très déraisonnable, qui est DRM, qui implique le contrôle d'usage. Donc il cherche à rentrer dans des marchés en disant, voilà, on vous propose du DRM, en fait ce qu'ils vendent c'est du contrôle d'accès. Et comme ça, ils ont l'attention des médias. Puis ça s'arrête là, finalement. Alors nous, ça nous emmerde colossalement, parce que ça rend les choses très très floues, très difficiles. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais vous voyez, le contrôle d'usage, c'est possible en logiciel libre. Alors on va voir Sun et il dit, mais non, mais pas du tout, on parle pas du contrôle d'usage. Ils le disent évidemment pas aussi clairement, parce que sinon ils seraient obligés de dire, non, il s'agit pas de DRM. Donc, moi je suis pas très content de l'attitude de Sun là-dessus, je vois bien l'opportunisme que ça a, j'espère qu'il y a un moment où ils vont cesser, parce que Sun, malgré tous les griefs que j'ai pour eux, parce que j'aime pas tellement les grosses corps, je les aime bien parce qu'ils ont des idées originales. Mais celle-là, on s'en serait bien passé, je pense.
Il s'adresse sur Asun et non pas à Alexis qui s'occupe plutôt de la partie Java.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions avant qu'on fasse un dernier tour de table des intervenants ? N'hésitez surtout pas. Hein,
ouais, c'est juste une interrogation. Quid de la prochaine version de la GPL à propos justement de l'implémentation, de l'implémentation des DRM et du débat entre Stallman et Linus Torvalds. Voilà.
Bon, merci Mathieu. J'avais marqué GPL V3 justement. C'était ma prochaine sujet d'intervention sur les intervenants, sur justement cette GPL V3 et puis les DRM et puis d'autres sujets. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet-là, parce que ça va avoir un impact effectivement. Alors je vais dire pas dans les intervenants, je pense qu'on va laisser la parole au président de la FSF France, donc la branche française de la Free Software Foundation, Loïc. Un petit point d'actualité sur la GPL V3.
Oui, je vais juste répondre à la question peut-être. Il y a une invention qui est très belle dans la GPL V3, comme toutes les évidences, on se dit après l'avoir découvert, mais comment il n'y a pas pensé plus tôt. Dans la GPL V3, il y a marqué « Ce logiciel n'est pas un DRM ». Et juste marquer ça, ça veut dire que si on fait du logiciel libre, on s'interdit de poursuivre les gens qui utilisent ce logiciel-là au titre des lois qui protègent les DRM de façon outrageante, comme ce qu'on a maintenant partout dans le monde. C'était tellement simple de penser ça comme ça. Maintenant, ce que Linus Torvalds dit sur le fait que ça l'obligerait à publier ses clés privées, etc., ça tient plus du fantasme. Mon opinion personnelle sur la profonde réflexion de Linus Torvalds, c'est que quand il dit la GPL V2 est simple et c'est pour ça que je l'aime, c'est pas possible, il l'a pas lu quoi. La GPL V2, c'était super compliqué. Ce que j'aime bien dans la GPL V2, c'est que ça tire des grandes lignes, mais ça va pas dans le détail. Des détails, c'est une question que de détails dans la GPL V2. Et la GPLv3, c'est vrai qu'elle a des détails en plus, parce que malheureusement, nos législateurs nous ont servi des lois de plus en plus compliquées, et qu'on a été obligé de complexifier un peu la GPLv3. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille prendre très, très au sérieux la réflexion de Linus Forvald sur la GPLv3.
Voilà. Donc, peut-être une petite réaction de Sun.
Oui, rapidement, pour dire que la mise en open source de Java s'est faite en GPLv2, et pour cause la 3 n'est pas là aujourd'hui, que Sun est très attentif aux évolutions de la V3, qui a attendu mi-2007, à peu près.
Mars.
Si c'est comme un éditeur de logiciel, il y aura, ça sera décalé. Hein.
Comme Java en GPL, ça a été décalé.
Oui, c'était décalé. Non,
Ne vous inquiétez pas, nous allons avoir des annonces comme quoi la cité est ferme, et nous pouvons rester, ne vous inquiétez pas.
D'accord. Simplement pour dire que une des questions tout à fait classiques a été de dire était posée de savoir si Java passerait en GPLv3 quand la GPLv3 va sortir. La GPLv3 n'existe pas aujourd'hui, donc on ne peut pas vous le garantir, mais c'est tout à fait possible, plausible. Et effectivement, je pense que la vie de Sun aujourd'hui, des gens qui suivent de très près cette évolution, qui je pense qu'y participent et y contribuent, est la même que celle qui a été faite à l'instant sur l'analyse de Linus Torvald, qui a priori n'a pas regardé en assez de détail le contenu de la V3.
D'ailleurs, en parlant de Java et GPL, donc dans le numéro de Zéro Informatique, page 16, vous avez une interview de Simon Phipps, qui est responsable logiciel libre.
Qui est typiquement celui qui suit ces évolutions de GPL.
Donc il y a une interview qui explique un petit peu la position de Sun et les évolutions futures. Eric, tu voulais réagir ?
Oui, non, c'est juste par rapport à GPLv2, GPLv3, il y a souvent ce qu'on voit dans les entêtes des sources, à savoir le logiciel distribué sous licence GPLv2 ou OrLighter. OrLighter, c'est assez paradoxal, en fait, puisque on ne sait pas encore ce qu'on va avoir en GPLv3 et des gens ont relisé ça. En fait, on fait confiance finalement, on est en train de céder une liberté à la GPL et aux auteurs de la GPL. C'est assez amusant.
Je pense que Loïc va réagir. Et puis après, il y aura une réaction de Christophe aussi.
Le principe, c'est que c'est les utilisateurs qui ont le loisir de choisir la licence future. C'est pas l'auteur de la licence, c'est pas l'auteur du logiciel non plus. Évidemment, lui, il le peut. Hein. Mais cette clause-là, elle dit aux utilisateurs, en l'absence de l'auteur, vous pouvez faire ça. C'est quelque chose qui a été prévu pour le cas où les auteurs, ils meurent, le cas où ils disparaissent, même s'ils sont pas morts, où ils se désintéressent des choses. Et le logiciel libre, c'est fait pour durer éternellement. Aujourd'hui, il y a bon nombre de logiciels, on sait absolument comment joindre les auteurs. Donc si le contexte légal change, on a un problème de taille quand, je sais pas, un tiers des logiciels sont en fait sous une licence qu'on peut changer pour s'adapter au contexte légal parce que les auteurs ne sont pas là. Donc la clairvoyance de cette possibilité, de cette ouverture qui est faite aux utilisateurs d'avoir une évolution dans le contexte légal, c'est quelque chose qui est la seule chose qui sauve l'intégralité du logiciel libre, quasiment, puisque les logiciels sous GPL et LGPL, c'est près de 70% des logiciels libres existants, qui les sauve d'une paralysie, d'une sclérose légale.
Merci pour cette réponse très claire. Je crois que Christophe
Espion vous... D'ailleurs, juste Loïc, je crois que le noyau Linux, c'est en GPLv2, only. Donc ça veut dire que le débat est caduque, puisqu'on ne peut pas contacter tous les auteurs de Linux, c'est quasi impossible aujourd'hui.
Oui, non, c'était juste pour revenir sur deux points. Le premier point, effectivement, il y a toute une série de débats sur Internet sur une certaine clause de du projet de GPLv3. Moi, effectivement, ce que j'ai relevé la première fois que je l'ai lu, c'est qu'il y avait écrit que ce logiciel n'est pas une mesure technique au sens de la section 1201C du DMCA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, c'est pas de la mesure technique. Et tous les gens se sont focalisés sur ce qui suit, qui explique quelles vont être les obligations éventuelles, parce que pour l'instant, c'est que du brouillon, pour les auteurs vis-à-vis des mesures techniques. Mais juste ça, personne. Enfin, ça semble déranger personne. Donc très bien. Prenons acte que le fait que les DRM libres, c'est une mesure technique libre, c'est pas quelque chose que les gens... Enfin, ça pose de problème à personne. Et le deuxième point, effectivement, on en est au projet. Moi, je suis toujours surpris de voir comment on peut parler pendant des heures et des heures sur des brouillons. Parce que là, c'est là, Linus Torvalds a des réactions, mais c'est démesuré, c'est qu'un brouillon. Il a qu'à envoyer une note, d'expliquer quel est son problème, il envoie un patch, voilà. Et puis, il y aura pas de souci. Donc, moi, voilà, c'est les deux points qui ont été signalés. D'une part, le point intéressant, c'est celui-là, il y a des choses sur les brevets aussi qui sont très bien, et d'autre part, de toute façon, c'est un brouillon.
On pourrait mettre aussi les projets de loi sous subversion, envoyer des patchs, oui. Plus facile. Ou CVS, si vous voulez. Je vais prendre une ou deux interventions avant un dernier notable ici. Donc je suppose que tu voulais intervenir.
Je ne vais pas intervenir sur la GPL V3, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, le logiciel libre met en avant certains des avantages et peut-être des difficultés qu'on a en France par rapport à certaines technologies, surtout quand il s'agit de l'innovation. Et je voulais avoir votre avis sur certaines méthodes aux États-Unis qui protègent le secteur des entreprises, qui sont donc plutôt innovantes, dans l'accès au marché public.
Ouais, Christian, je crois que c'est pour vous. Hein.
Je pense que vous faites allusion à la Small Business Administration aux États-Unis, où effectivement, je ne sais plus quel 30%, je crois, je ne sais plus exactement, marchés publics sont réservés aux PME, PMI américaines. Alors l'idée a fait son chemin en France d'abord, et est en train de faire son chemin en Europe, avec, comme ça arrive parfois, une analyse un peu différente des hauts fonctionnaires européens, puisque ils estiment déjà que 70% des marchés publics dans l'Europe vont à des PME-PMI européennes. Tout simplement parce qu'ils prennent en compte comme PME-PMI européennes les filiales de grands groupes. Voilà. Alors, ouais. Voilà, ça ce sont les fonctionnaires européens. Alors on a une vision un petit peu, on essaye de faire passer, le gouvernement français essaye de faire passer une vision un peu différente qui est de dire il faut prendre en compte les PME-PMI indépendantes. On ne peut pas hélas faire, nous de notre côté en France seulement, un SBA à la française, donc ça ne passera que par une solution européenne. Alors il y a un habillage, on essaye de... Bon, mais c'est un processus long, mais je pense qu'on arrivera à terme à ça, évidemment. C'est se mettre à armes égales, que le nom du rapport de Bernard Carillon, c'est le principe de réciprocité, tout simplement. Alors, on l'a vu sur Bombardier, on le voit là, on le verra encore demain sur d'autres choses.
Éric Leblanc ?
Je crois dans la dernière loi de finances à ce niveau-là, notamment pour tout ce qui est administration publique, il y a quelques aménagements qui permettent normalement l'accès aux PME. Bon, c'est encore normalement, comme d'habitude.
Donc, éventuellement, une dernière intervention ou question ? Francis ? Non, micro, micro. C'est enregistré, en fait. On est-tu capable ?
C'est pas... Disons que la question des REM illustre la différence entre ce qu'ils appellent l'open source et le logiciel libre, parce que le logiciel libre découle de certaines philosophies. Et d'autre part, il n'y a pas que la question des REM sur GPL V3, c'est le problème des logiciels embarqués, avec un verrouillage par le hardware qui empêche un logiciel d'être exécuté. Ça fait ce problème d'activisation, il y a pas mal de logiciels embarqués. Donc là, il y a un problème aussi d'une certaine industrie qui utilise littéralement la GPL V2, pour contourner l'esprit même de la GPL. Voilà, donc là, une interrogation par rapport aux politiques. Est-ce qu'ils cautionnent ce type d'industrie qui contourne, disons, l'esprit du libre ?
Question ?
Une opinion personnelle. Pour moi, tout ce débat, je reviens aux enfants qu'on évoquait tout à l'heure. Pour eux, ce débat n'existe pas. Les DRM, c'est l'occasion de faire du business pour certains, point. Donc, mais tout ça va être balayé par l'histoire dans quelques années, peut-être quelques mois. Donc je trouve que c'est pas très intéressant d'en parler finalement. Il faut se battre contre le système, mais c'est déjà condamné par l'histoire. Voilà. Sauf que pour le moment, ça permet à beaucoup de faire du business, à vendre chaque fois que vous téléchargez un centime d'euro, etc. Oui.
Je pense aussi que c'est une idée absurde. Mais ceci étant, ce que vient de soulever Francis, c'est les BIOS, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer son système. Donc là, par exemple, en France, on a le code de la consommation sur les ventes liées, qui précise que d'un côté, on a du matériel, de l'autre, on a le logiciel qui est un service. Là, par la technique, ça contourne donc effectivement les libertés concédées par la licence, mais ça va au-delà, puisque là, en fait, ça contourne carrément la loi. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre un état de fait qui est contesté de plus en plus. Il y a eu une réunion avec la GCCRF en France, etc. On n'est pas les seuls. Et cet état de fait est contourné par le mécanisme technique. Et là, je pense qu'il y a un vrai danger pour le logiciel libre. Et c'est pas, là, c'est pas du contrôle d'usage au sens sur les œuvres artistiques. Là, on est sur un mécanisme où on ne souhaite plus que les périphériques électroniques communicants puissent embarquer des logiciels qui ne sont pas certifiés, agréés, tant par les opérateurs télécoms que par les producteurs de contenu. Voilà, donc c'est un débat qui est plus large que les seuls DRM.
Non, mais là, je crois qu'on rentre dans, agréé par qui ?
Justement.
Là, on rentre dans un problème qui, au bout du compte, est un problème de sécurité et de souveraineté nationale. Donc, le verrouillage a des limites, quoi.
D'ailleurs, je vous invite à lire l'article, je ne sais plus combien, de la loi DATSI, qui précise que l'État peut se saisir, peut interdire en fait des logiciels qui embarqueraient des dispositifs techniques qui fonctionneraient sur un mode que je viens de décrire avec binaire signé, etc. S'il estime que ça pose un problème. Donc, il y a dans la DATSI, il y a des points aussi comme ça que personne a relevé, mais qui potentiellement sont très intéressants puisque ça, si par exemple Microsoft décide de mettre un logiciel comme Vista avec une puce qui signe, on ne peut pas changer rien, il y a de l'opacité, on ne sait pas les données qui circulent, etc. Il peut être, la loi dit clairement que même si on invoque le fait d'une mesure technique ou de la protection du droit d'auteur, ça peut sortir des administrations. Et aussi des centrales nucléaires, des hôpitaux, etc. L'article 14, on me souffle à ma droite.
Si je vais vous demander à chacun, en une minute ou deux, de faire, non pas une conclusion, bien entendu, mais plutôt une ouverture sur l'avenir, justement, quels sont les prochains enjeux. Donc, on va faire de gauche à droite. On va commencer par Alexis.
D'accord. Donc, vous l'aurez compris au travers des différents exemples, et l'actualité est autour de la mise en open source de Java. C'est vraiment une stratégie pour l'entreprise, pour créer, animer des communautés qui est la vraie valeur qu'il y a derrière du logiciel. Et tout ça répond en fait à une stratégie qui existe depuis toujours chez Sun, qui consiste à dire que l'on va, dans certains cas peut-être même créer, ou en tous les cas agrandir un marché, et que l'on aura mécaniquement une part plus importante de ce marché, parce que le but étant bien sûr de faire de l'argent derrière. Donc le but n'est pas d'avoir une concurrence, c'est un industriel qui parle frontal, direct, sur un marché donné, mais plutôt d'essayer d'innover, de créer un marché. Java est aujourd'hui un véritable marché, ça en est à l'origine. On parlait dans la table ronde précédente de la Liberty Alliance, dont ça est à l'origine également. Donc il y a un certain nombre, on parle d'open document, donc il y a beaucoup de marchés qui sont créés et dans lesquels Sun prétend avoir une part, la plus grosse possible, mais on ne va pas aller jusqu'au monopole. Et c'est véritablement dans ce sens-là qu'on veut faire partager au plus grand nombre Java qui n'était pas utilisé aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs. Nous espérons beaucoup qu'il soit embarqué dans un nombre important de distributions Linux et de ce fait qu'il soit mis à disposition de développeurs qui ne faisaient pas de Java. Donc la communauté augmentée et tout le monde va en bénéficier, y compris Sun.
Éric Leblond.
Oui. Moi, je voudrais focaliser sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir les pays émergents. Signalé tout à l'heure, oui, les sociétés de services vont être concurrencées directement par les pays émergents, mais on oublie qu'avec l'augmentation du niveau de vie, on va aussi avoir un autre problème qui va arriver, un autre problème ou un autre fait qui va se produire, à savoir que ces pays émergents vont commencer à coder. Ces pays émergents vont commencer à être des contributeurs. Lorsque les Chinois seront bien équipés en ordinateur, on va se retrouver avec le même pourcentage que nous, fois un milliard, ce qui va faire beaucoup plus que nous. Donc comment on pourrait, au niveau des collectivités, arriver à lutter? Comment faire avec? Voilà, ça je pense que c'est une question d'avenir. On risque d'avoir pas mal d'évolution dans le logiciel libre qui va plus devenir franco-français, européen ou américain. Voilà.
Monsieur Davio.
Sur ce précis, je crois que la Chine est ouverte à toute collaboration. Je crois qu'Object Web, par exemple, travaille très bien avec les Chinois. C'est un détail. Non, moi, juste pour vous avez remarqué qu'on est en campagne présidentielle ou incessamment, c'est peut-être le moment d'inviter les gens à s'engager sur tel et tel point. Je crois que Ségolène Royal avait soutenu les quêtes libertés, là. Il serait peut-être temps de le faire inscrire dans les forums participatifs. Là, il y en aura sûrement à la Cité des Sciences, dans vos régions, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est le moment de faire inscrire ça. Pareil à droite, pareil. Donc, c'est le moment de se bouger un peu, première chose. Deuxième chose, je crois que ce serait vraiment bien que nous arrivions ensemble à faire un pôle de compétitivité. Je crois qu'on atteint la taille critique si on met dedans le processeur. Donc il n'y a pas de problème de taille critique. Mais ça, il faut qu'il y ait une communauté qui soit capable de parler d'une voix, du moins de voix qui vont dans le même sens, voilà, et de raboter un peu les égos.
Personne ne viendra qui notre peau, comme ça. Christophe Espern.
Oui, donc effectivement, ça tombe bien parce que nous on prépare le programme donc de l'April. Donc il y a différents éléments.
On n'a pas de candidat, rassure-moi.
Non, on n'a pas de candidat. Le but c'est de le faire porter par tous les candidats et de le faire inscrire notamment dans le projet socialiste pour ce qui concerne les socialistes, dans l'avant-projet législatif. Donc François Bayrou a publié pour l'UDF. Le projet de l'UMP aussi, je crois, est sorti. Là, c'est les sorties, donc faut en profiter. Il va y avoir tout un laps de temps pour pouvoir itérer là-dessus. Et rapidement, moi je pense qu'il faut travailler sur l'environnement juridique, donc ça veut dire le rejet des brevets logiciels, la réforme des mesures techniques, en sachant et en ayant en tête que ça veut dire remonter au niveau européen et éventuellement au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc moi quand je vois des politiques qui disent je ne veux plus voir de DRM sur ce pays, enfin la protection c'est complètement abscon, etc. Oui, mais c'est bien pour ça que c'est une élection présidentielle, c'est un problème de politique étrangère. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler. Donc faut vraiment dire la vérité. Donc il y a ça, il y a l'avant-lier, il y a organiser les informations essentielles, l'interopérabilité, le débat d'ATSIA permet de soulever. Puis après, je pense qu'il y a aussi une action à faire pour l'environnement fiscal. Bernard Carillon avait dit très justement que le logiciel libre, c'est la gratuité qui profite à tous, et il l'avait opposé à la gratuité qui ne profitera à personne. Moi, j'aime bien cette notion-là de gratuité qui profite à tous. Ça ne concerne pas que le logiciel libre, d'accord, d'abord. Mais aussi, je pense qu'on pourrait faire une incitation fiscale. C'est-à-dire que les gens qui contribuent au logiciel libre contribuent à un bien commun. À partir de ce moment-là, on peut estimer que l'app qu'ils font, que ce soit des entreprises, des associations, des individus, peut être considéré comme un don et avoir une fiscalité particulière au regard de leur contribution. Donc ça, c'est un mécanisme fiscal. Et après, il y a tout le travail. Là, ça demande un maillage. Nous, on est en train de réfléchir à comment faire. Un maillage local pour faire remonter aux collectivités territoriales, aux maires aussi, d'une part, puisque c'est eux les décideurs qu'il faut qu'ils utilisent du logiciel libre, de les sensibiliser dans leur circonscription. On a bien vu pendant le DATSI que 150 personnes qui téléphonent aux mêmes députés mais qui n'habitent pas dans sa circonscription n'obtiendront pas grand-chose. 10 personnes qui habitent dans sa circonscription, qui l'appellent le même jour, il va se dire « Oh là, j'ai un problème dans ma circonscription. » Donc et pareil pour les sénateurs, on s'est bien rendu compte que le mécanisme qui fonctionnait avec les députés, c'est-à-dire de les sensibiliser en leur disant « Mais c'est vos électeurs qui vous écrivent », avec les sénateurs, ça ne fonctionne pas, puisque c'est des grands électeurs qui les élisent. Donc les maires et les conseillers régionaux généraux. Donc il faut passer par eux. Donc c'est aussi de nous de se structurer, et que j'en discutais avec une personne de l'AFUL, avec Muriel qui est là, sur la question d'effectivement, par exemple, les LUG ont souvent des visions techniques de leur activité et ne se rendent pas compte que la loi peut les rattraper, qu'à un moment, ils ne pourront plus exercer leur activité technique. Ils ne veulent surtout pas entendre parler politique, mais la politique les rattrape. Donc ça serait aussi de réussir à faire prendre conscience à l'ensemble de la communauté. C'est une action qu'on peut mener qu'ensemble. Surtout qu'en face, les forces, comme je disais, 12 000 contacts, les flottes de commerciaux, les techniques de lobbying. J'ai eu l'occasion de rencontrer, et je conclurai là-dessus, la personne en fait qui a organisé la campagne de lobbying sur le DATSI à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'en fait ça leur échappait. Et ils s'en sont rendus compte dès début novembre, quand on est intervenu au ministère de la Culture, bien avant, enfin un mois avant l'examen du projet de loi. Ils avaient déjà identifié qu'ils avaient un problème. Ils nous ont expliqué comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Enfin, on a vraiment en face de nous, c'est monstrueux, quoi. Donc il faut qu'on s'organise et qu'on réseaute et qu'on fasse, comme pour le logiciel, des effets réseau, mais sur la sensibilisation des politiques.
Merci Christophe. Là-dessus, ça me rappelle l'anecdote de Michel Roch qui expliquait qu'en fait l'innovation était du côté du logiciel libre. Il rappelait que le jour du vote sur les brevets logiciels l'an dernier, en fait, les pro-brevets logiciels, donc à Strasbourg, sur lequel il y a une rivière qui passe, a loué en fait un gros bateau avec « Vive les brevets logiciels, c'est favorable à l'innovation ».
pour montrer aux députés leur force, et qu'en fait, il expliquait que les opposants au brevet logiciel avaient, ce gros bateau, était loué des petites barques dans les magasins de Strasbourg, et s'était mis devant le gros bateau qui, évidemment, ne pouvait plus avancer, parce que sinon, il serait rentré dans les petits bateaux, et les députés étaient morts de rire en disant, finalement, ben, l'innovation est quand même du côté des gens du logiciel libre. Donc sinon, avant de conclure sur la partie dont tu viens d'évoquer, donc sur le programme, un certain nombre de points de logiciels libres, standards ouverts, etc. On va lancer un site qui va être un site à la fois qui va se décliner en campagne présidentielle, mais aussi législative municipale, sur laquelle il y aura beaucoup de besoins d'action en local, évidemment, pour aller voir, par exemple, les candidats municipaux, candidats aux législatives, sur des points d'action concrètes. C'est pas simplement de dire le logiciel libre, c'est bien, mais concrètement, on vous propose telle action, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous allez le mettre dans le programme, donc de pouvoir avoir des engagements, ce qui permet derrière de suivre les engagements. On sait que les politiques ne tiennent pas tous leurs engagements, mais au moins on pourra faire des bilans derrière. Donc ça sera lancé assez rapidement. Toujours sur la politique, il y a une table ronde qui normalement devrait être organisée à Solution GNU Linux en février 2007, qui réunirait l'ensemble des partis. Si un certain nombre de partis qui, nous, pour l'instant, n'ont pas répondu à l'invitation répondent, je ne citerai pas lesquels, mais en gros, il en manque pour l'instant deux. Mais l'idée, c'est justement de faire venir les partis, donc les responsables, si possible, plutôt technologie de l'information et compagnie, sur la partie logiciel libre et tout. Donc ça sera aussi une occasion de les questionner en direct dans le rendez-vous... Tu as visiblement compris quelle partie n'avait pas encore répondu. Mais c'est l'occasion aussi de leur poser des questions concrètes sur ce qu'ils comptent faire dans leur programme, notamment présidentiel. Donc pour finir, je voudrais remercier la Cité des sciences et de l'industrie, qui depuis 1998 est un partenaire fidèle de l'April. On monte beaucoup de manifestations avec un axe qui est très simple, c'est la sensibilisation du grand public. Et je voulais notamment remercier deux personnes, parce que comme on fête nos 10 ans, il y a deux personnes particulièrement que je voudrais remercier. La première, elle n'est pas ici, c'est Jérémy Nestel. Qui en 98 travaille à la Cité des sciences et qui a beaucoup fait pour le logiciel libre à la Cité des sciences. Il s'est notamment battu en 98 pour qu'on organise une semaine du logiciel libre, et avec un pari complètement fou qui était de faire venir les de son collège dans lequel travaillait son père, donc Charlie Nestel, qui était prof de technologie. À l'époque, en 98, il enseignait la technologie avec des logiciels libres, mais aussi chez le propriétaire. Et on a fait venir ses élèves, et pendant une semaine, en fait, ils avaient montré au public comment ils utilisaient le logiciel libre dans leurs cours. Et c'était vraiment un grand défi de faire ça à l'époque, en 98. Donc je voudrais vraiment remercier Jérémy Nestel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il a fait beaucoup. Et la deuxième personne, c'est la personne qui travaillait avec lui, qui continue à travailler à la Cité des sciences, c'est Thomas Séchet. Donc vous le voyez derrière, là-bas. Je pense que le logiciel libre à la Cité des sciences lui doit beaucoup. Il a survécu un certain nombre de chefs, je peux me permettre de le dire. Et il est toujours là pour faire le logiciel libre. Donc c'est grâce à lui que c'est diffusé sur Internet. C'est grâce à lui que les tables rondes seront mises en ligne très rarement. Et notamment, tout à l'heure, on a parlé de bien commun. Philippe Aigrin est intervenu samedi dans la dernière table ronde. Il a parlé de bien commun. Donc je vous encourage à l'écouter. Je pense que ça sera disponible d'ici une semaine ou deux. Ça sera soit annoncé sur le site de l'app, soit les préinscrits recevront un mail. Et puis je voulais remercier évidemment notre partenaire presse 01 Informatique qui a fait un superbe numéro spécial libre, un modèle approuvé. Bon, même si à mon goût il manque quelques gnous en couverture, mais bon, ça c'est un point de détail. Et remercier tout particulièrement Philippe Davy qui est un journaliste comme on en fait peu, parce que je dois le dire, et que j'ai beaucoup apprécié de travailler depuis quelques années avec lui. J'espère qu'on pourra travailler encore dans l'avenir autour du logiciel libre ou d'autres sujets. Donc je voulais vraiment te remercier de ton travail à ce sujet. Et puis donc maintenant, ça va être l'heure de, normalement, si les équipes de l'April sont fiables, comme tout logiciel, un pot est livré quand il est prêt, donc a priori, il devrait être prêt. Donc le pot, ça va se passer juste à côté, dans la classe numérique, donc il suffit de ressortir et de tourner à gauche. Donc, vous êtes invités à participer, c'est jusqu'à 21h30, 22h, en fond de la sécurité, voire plus. Donc je remercie les intervenants qui sont venus, sur un sujet pas évident, et puis je remercie le public d'être resté, et puis je vous invite à la collation de l'amitié. Merci.